dans cette release. De la parano, de l'humour, des mots de passe et des leçons d'hygiène numérique. L'équipe aujourd'hui est composée de Simon, Maiwan, Infacet Grunt et Dascritch. Nous vous diffusons un remontage de la cryptopartie du 28 octobre 2017. Donc installez-vous dans la salle, on est en public et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Ce serait cool. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous vous passons une première partie de la crypto-partie qui a eu lieu le samedi 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis. Nous remercions infiniment tous les bénévoles de crypto-partie Toulouse et les équipes de la bibliothèque municipale de Toulouse. Le lien vers l'enregistrement complet et non remonté de la crypto-partie est disponible sur la page de l'émission du site cpu.pm. Et nous passons en fait qu'une première partie, il y aura plusieurs émissions qui y seront consacrées vu que cet événement a duré 4 heures.
CPU carré petit utile.
Je vous rassure, il y aura de la parano, mais on va le faire avec humour, donc c'est pas trop grave. Je vous remercie à tous d'être venus. Je remercie bien évidemment toute l'organisation au sein de la médiathèque José Cabanis. Donc merci d'être venus et de participer à une crypto party. Le nom, il fait un petit peu... Alors déjà, c'est en anglais, crypto, déjà, on pense à des trucs, c'est un peu noir. Qu'est-ce qu'une crypto-partie ? Il y a une traduction française et elle est vraiment dans l'esprit du terme anglais. C'est une chiffre au fait. D'abord, on est là pour vous expliquer comment fonctionne l'informatique. Tout simplement parce que l'informatique fait de plus en plus partie de notre vie de tous les jours, que cela soit quand on s'en sert ou quand on fait un acte qui requiert... un système informatique, et sans le vouloir. Ça peut être en prenant le bus, ça peut être en allant acheter quelque chose. Il y a de l'informatique derrière, donc ça signifie que vous laissez des traces sur ces systèmes informatiques-là. C'est tout à fait normal. Mais cela a d'autres implications, notamment qu'on peut savoir ce que vous faites, à quel moment, et indirectement, vous pourriez penser, ou ceux avec qui vous discuterez. Donc, une crypto-partie a principalement pour but de vous aider à protéger votre identité et à faire en sorte que, justement, vous ne disséminez pas trop d'informations trop personnelles sur vous pour, justement, éviter qu'il y ait des personnes trop indiscrètes qui s'y intéressent. Et enfin, à partir de là, comprendre les implications juridiques et politiques sur les lois qui sont faites vis-à-vis d'Internet ou vis-à-vis des usagers d'Internet. Et les usagers d'Internet, eh ben, c'est vous, c'est moi, c'est pas que les terroristes, les pédophiles et les autres vendeurs de drogue. C'est vraiment l'ensemble de la population dans notre société. Alors, là, je vous ai fait un dossier, une explication en plein. Moi, je vais maintenant vous expliquer en creux ce que n'est pas une crypto-partie. La première des choses, c'est qu'on n'est pas là pour vous dire il faut arrêter de communiquer avec vos proches. Non, on va vous expliquer qu'effectivement, quand vous communiquez avec vos proches, il y a de forts risques que vous dites des choses et que d'autres personnes les écoutent. On est là pour vous expliquer comment vous pouvez reprendre de la confiance quand vous communiquez avec vos proches et comment vous pouvez communiquer en toute confidentialité. On n'est pas là non plus pour réparer votre PC. Parce qu'il y a des gens qui viennent des fois avec leur tour et qui disent ah « ben, je peux plus imprimer, je peux plus utiliser mon ordinateur ». Non, non, c'est pas notre rôle. À vrai dire, nous-mêmes, on n'est pas très bons. Hein. Par contre, si vous voulez en savoir plus pour réparer votre ordinateur, il y a des associations qui font ça très bien. Je pense notamment à l'association Tout Libre, et qui d'ailleurs, dans 3 semaines, organise le Capitole du Libre. C'est pas très loin d'ici, ce sera à l'ENSET. Et qui est là justement pour aider les gens à comprendre, à maîtriser leur ordinateur. On n'est pas là pour des activités illégales. Que cela soit clair. Vous ne nous verrez pas mettre des gants ou mettre une cagoule pour faire des choses sur notre ordinateur. Non. D'abord, si on faisait quelque chose d'illégal, on ne mettrait pas une cagoule et des gants pour aller taper sur un ordinateur. Il n'y a que les gens du Point ou de l'Express encore croient ça. Non, la réalité, c'est que on est là pour vous expliquer des choses qui sont un usage tout à fait normal de votre ordinateur et qui sont tout à fait légales. Quand on va vous parler tout à l'heure du dark web, peut-être, quand on traduit ça sous le nom de Internet clandestin, c'est faux, ça n'a rien de clandestin, c'est un usage normal d'Internet. Et peut-être que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte. On n'est pas là non plus pour modifier un compte Facebook. Si jamais votre ex a des photos de vous dans des positions compromettantes et plutôt dénudées, et que vous êtes, et que cette personne a décidé de les poster sur le compte Facebook, non, on ne saura pas les supprimer. Que les choses soient claires, la chose qu'on vous dira sera plutôt de porter plainte à la police, qui seront 100 fois plus compétents que nous. Et enfin, on n'est pas là pour un projet de start-up. Oui, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et qui disent « Alors j'ai une super idée, etc. Ouais, laissez-moi deviner, c'est un clone de Facebook ?» Comment vous avez deviné ? On vient souvent nous le dire, à vrai dire, si on avait un projet de start-up, on le ferait nous-mêmes. Et d'un autre côté, on n'est pas là non plus pour vous vendre quelque chose. On ne fait pas des conférences gratuites pour vous vendre derrière des prestations. Parce que si on faisait ça, légitimement, vous n'aurez aucune confiance vis-à-vis de ce que l'on va vous dire. Et on le sait, parce que nous-mêmes, on aurait le même réflexe. Et en fait, on est un peu, plus ou moins, comme vous. La seule chose, c'est qu'on est riche d'un savoir et qu'on essaie de le partager. Parce que pour nous, c'est très important. Pour en revenir un petit peu... Sur les raisons historiques pour lesquelles on fait ça, on va raconter la première crypto-partie, comment elle s'est déroulée. Tout est parti en fait d'une loi qui a été votée en Australie, assez controversée, qui s'appelle la Cybercrime Legislation Amendment Bill. C'était en 2011, et on a dit, pour arrêter les activités criminelles sur Internet, on va exiger des fournisseurs d'accès qu'ils enregistrent tout ce que font les gens sur Internet pendant 2 ans, de les stocker, et que les FAI doivent les fournir sur réquisition de la police à n'importe quel moment. Bon, je vous rassure, hein, on a exactement la même chose en France avec les lois d'état d'urgence, et d'ailleurs c'est passé maintenant dans le cadre de la loi générale. Supposons, vous faites une soirée, vous êtes un petit peu éméché, vous vous retrouvez en cellule de dégrisement. La police peut très bien demander à votre fournisseur d'accès, en Australie, à avoir les données que vous avez envoyées. Et il se trouve que dans les données que vous avez reçues, il y a des emails que vous échangez avec quelqu'un de votre famille, et vous avez le petit cousin à poil en train de prendre son bain. À 2 ans, c'est mignon. Crac, boum, pédophilie. Tout le problème y est là. Il y a une judiciarisation sur vos actes passés et sur des communications qui sont strictement privées, sans qu'il y ait le moindre mal. Donc évidemment, en Australie, il y a eu des tollés. Il y a des journalistes, des avocats, des médecins, des syndicalistes qui se sont dit « Non, là, il y a un très gros problème. » Ils commencent à en discuter entre eux sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Et il y a des gens qui d'abord se rendent compte que le problème n'est pas uniquement en Australie. Il a lieu aussi aux États-Unis, il a lieu aussi en Angleterre, il a lieu aussi en France, il a lieu aussi en Chine. Et c'est une tendance générale depuis 2001. Et ça s'accélère. Et donc, il y a des gens qui disent je vais chiffrer mes communications. Moi, je vais chiffrer mon disque dur. Et il y a une journaliste qui s'appelle Ashley Wolf, qui s'intéresse énormément justement aux problèmes sociétaux, qui dit « Oui, c'est très bien ce que vous dites, mais moi, je comprends pas comment marche mon ordinateur. Vous me dites de chiffrer. Mais expliquez-moi déjà comment il fonctionne, et après, comment je peux le chiffrer. » Rencontrons-nous dans un espace public où l'on peut échanger. Et en fait, en août 2012, a lieu les premières crypto-parties. Et c'est allé extrêmement vite à partir de là. Dès le mois suivant, a lieu à Londres la première crypto-partie. C'était d'ailleurs chez Google. Le même mois, a lieu en Hollande une crypto-partie dans laquelle une personne qui fait des logiciels de chiffrement, qui est assez connue, sort une phrase absolument magnifique, qui, à mon sens, explique bien notre idée. Il s'agit de remettre le personnel dans l'informatique personnelle. Informatique personnelle, c'est quand même le terme avec lequel, justement, on a fait rentrer les ordinateurs dans nos foyers dans les années 80-90. Et ce terme, on l'a complètement oublié, parce que maintenant, nos ordinateurs sont en permanence sur Internet. Et en fait, il est là. Il est de pouvoir reprendre le contrôle sur un outil qu'on a nous-mêmes mis chez nous. Et c'est ça qui est important. En octobre 2012 a lieu la première crypto-party à Toulouse. Alors ça a lieu dans un hackerspace qui s'appelle le Theta Lab. Alors le hackerspace, pour vous expliquer, c'est les gens qui sont un petit peu allumés, avec des fois quelques bières. Je dis quelques parce que des fois il y en a beaucoup plus. Qui bidouillent avec des circuits numériques, qui font de la soudure, trucs comme ça, qui essaient des trucs, ça les amuse, ça les éclate. C'est en plein milieu de Mixar Miris. Alors Mixar Miris, donc, c'est un collectif associatif d'artistes. C'est une friche artistique. Il y en a qui connaissent peut-être. Il y en a qui sont déjà allés. Parce que pour y aller, honnêtement, c'est boulevard de Suisse. Il n'y a pas beaucoup de transports en commun. C'était en octobre. C'était un mercredi. Il pleuvait. C'est pas très balisé. C'est pas très lumineux. On se dit, bon, les gens vont venir. Et ce soir-là, on a eu une trentaine de personnes qui sont venues. Alors évidemment, il y a les usual suspects, c'est-à-dire les artistes qui sont là, les bidouilleurs, mais il y avait des journalistes qui étaient présents, il y avait un avocat, il y avait un médecin, et des gens qui étaient vraiment là parce qu'ils étaient concernés au niveau professionnel et qui disaient, mais en fait, le problème, il est pour tout le monde. Il est vraiment très grand public. Et c'est là où on a eu une prise de conscience qu'il fallait faire les crypto-parties dans les endroits les plus accessibles envers les personnes les plus larges possibles. En décembre 2012, toujours, a lieu une crypto-party à Hawaï, dans une pizzeria. Dans l'arrière-salle d'une pizzeria, il y a une trentaine de personnes. Et ben, il y a un jeune qui a quoi ? Il a 28 ans. Et il explique comment le gouvernement, malgré ce qui est écrit dans la Constitution américaine, écoute et surveille ses citoyens. Et qu'avec des outils très puissants, ils arrivent en fait à documenter la vie des citoyens et ils s'en servent lourdement. Alors évidemment, les gens, ils sont vénères, ils sont là, ils disent mais enfin, c'est un scandale et tout. Et ce petit jeune, c'était Edward Snowden. Et il l'a pas dit ce qu'il faisait. Il a raconté en fait à ces gens-là, en fait, il leur a dit ce qu'il faisait, mais il ne l'a pas dit que c'était son boulot, puisqu'il était sous-traitant d'une entreprise qui travaille pour la NSA pour mettre au point leurs outils et il a accès à une documentation énorme. 6 mois après, Edward Snowden avait commencé à prendre contact avec des journalistes, avec Laura Poitras et Glenn Greenwald, et il va laisser tomber sa maison, sa femme, sa famille, ses amis. Il va prendre un avion pour Hong Kong avec un minimum d'affaires et il va tout déballer devant caméra dans un hôtel à Hong Kong, et tout le reste est dans le film Citizen 4. Et en fait, grâce à lui, et ben maintenant, on a des preuves qui sont tangibles. Ce sont des documents qu'on est encore en train de consulter sur, justement, tout ce problème de la vie privée qui est continuellement violée, tout simplement à cause d'une politique paranoïaque. Et c'est ça qui est fou. Alors, les règles de la crypto-party. La première chose, c'est qu'on va vous apprendre à être un petit peu parano avec ce que vous faites sur Internet. À faire attention un petit peu, à ne pas trop donner d'informations. Quand quelqu'un vous appelle et vous dit « Vous avez gagné un canapé cuir, est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone, votre adresse, votre numéro de carte bleue ?» Bah oui. La seconde chose sera de recouper les faits. On vous donne des informations, mais honnêtement, on n'est pas parole d'évangile. Hein. Moi-même, je dis beaucoup de bêtises en général. Heureusement, il y a des journalistes qui sont extrêmement sérieux, dont le travail est contrôlé justement par rapport à ce qu'ils écrivent, à ne pas dire de bêtises. Donc il y a énormément d'informations qui sortent dans des quotidiens comme Le Monde, comme Libération. Il y a un journaliste qui fait un excellent travail chez Télérama sur les entreprises qui sont spécialisées dans la surveillance de masse française. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces informations. Et quitte à les avoir, si vous-même, vous commencez à changer un petit peu de comportement, à dire « ah ben je ne veux plus communiquer comme ça avec toi parce que », n'hésitez pas, partagez l'information et expliquez pourquoi il faut faire attention à la manière dont on communique ou à ce que l'on fait sur Internet. Et enfin, ne soyez pas trop parano, parce que sinon ça va se terminer, comme quoi vous allez croire que Raël a loué des avions aux extraterrestres pour tuer à base de chemtrail Johnny Hallyday pour préparer le retour du King. Non, quand même pas. Voilà, donc j'espère que pour ce début, j'espère que j'ai été suffisamment clair, mais vous avez sûrement plein de questions. Vous en prie, oui. Brièvement, une crypto-party, c'est l'idée de partager avec le plus grand public possible nos connaissances pour comprendre comment fonctionne un ordinateur, Internet, et quelles sont en fait les données que vous laissez derrière vous, pour éviter justement de donner trop d'informations à des gens qui pourraient vous en vouloir. Et dans les gens qui pourraient vous en vouloir, en fait, il faudrait identifier ceux qui pourraient en fait monnayer vos informations. Il y a bien évidemment, il y a des crapules, honnêtement. Je crois que vous avez peut-être entendu parler des arnaques téléphoniques où il y a des gens qui appellent des entreprises et qui disent « je suis votre patron, il faut faire le virement le plus vite possible, etc. » Ça, c'est un exemple d'arnaque, et en général grâce à des informations qu'ils ont récupérées. Il y a aussi des démarcheurs publicitaires, donc des entreprises qui sont très intéressées pour avoir un maximum d'informations pour vous. J'ai un exemple en tête et qui est vécu plus d'une fois par plus d'une personne. C'est quand une femme dit sur Facebook qu'elle est enceinte. Et là, du jour au lendemain, ses emails, elle reçoit même des coups de fil, comme quoi il faut des vêtements, un nouveau prêt pour une nouvelle voiture, des trucs comme ça. C'est effrayant. Et ça veut dire que des gens sont extrêmement intéressés contre vous, puisqu'il s'agit de vous vendre quelque chose et de vous forcer la main, en connaissant ce que vous êtes. Et enfin, il y a un troisième problème qui est celui de la surveillance globale effectuée par les États. C'est pas uniquement l'État français d'ailleurs, c'est plein d'États différents. Si par exemple vous avez un ami qui va aux États-Unis, il se fera sûrement fouiller à l'arrivée si jamais il a eu le malheur de dire « Ah mais qu'il crève Trump ». Pourquoi ? Parce que ils font un profilage extrêmement précis des gens qui vont arriver aux États-Unis et donc ils remontent l'information en arrière pour voir s'ils présentent un risque. Mais si encore il y avait que ça. Un autre exemple que l'on a, par exemple, c'est une entreprise qui est purement française, qui est spécialisée en fait dans l'écoute de ce que l'on fait sur Internet et qui a vendu ses solutions que nous objectivement on appelle des armes numériques. Ils ont vendu à des pays pas très fréquentables. On a même reçu pour ça, sur un grand tapis rouge, Muammar Kadhafi, pour lui vendre ces solutions-là. Et dès qu'il les a déployées dans son pays, toutes ces personnes qui avaient des communications par email où ils remettaient en cause sa position de dictateur, ils les faisaient arrêter et ils leur faisaient couper la main ou ce genre de choses. Donc le problème d'une crypto-party, c'est que oui, on a différentes menaces et il faut apprendre justement à les gérer. C'est l'autodéfense numérique, purement et simplement. Thank you.
vous écoutez Radio FMR. Et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, avec des extraits de la crypto-partie du 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis.
Comment s'identifier à un serveur avec un mot de passe? Pourquoi? Parce que quand on se connecte à votre banque, à votre compte espace client chez un opérateur, à n'importe quel site internet, c'est comme si vous vous connectez à un serveur. Et ça passe par un mot de passe. Et ce mot de passe peut être utilisé notamment pour le chiffrement. Mais il faut encore que ce mot de passe ait un certain niveau. Donc, on va démarrer par une règle très simple concernant les mots de passe. Plus c'est long, plus c'est bon. Merci Xavier pour la référence. Donc, plus un mot de passe est long, plus ce mot de passe est long, plus il sera difficile pour le déchiffrement. Ben justement, c'est pas 4 caractères, ça peut être beaucoup plus. Et en l'occurrence, la règle actuelle, c'est qu'il faut au minimum 8 caractères dans votre mot de passe. Idéalement, il faudrait mettre 12 caractères. Idéalement. C'est bon, ça a été mis à jour, ça, parce qu'il y a quelques années. Voilà. Alors, idéalement aussi, il faut que ça soit des caractères divers, c'est-à-dire vous avez majuscules, minuscules avec nos lettres latines, vous avez les chiffres en arabe, vous avez également les caractères spéciaux, pourcent, point, point virgule, on peut utiliser pourcent et autres, mais également des caractères, on va dire, d'autres écritures, ça peut être l'hindou, ça peut être le japonais, ça peut être l'arabe, ça peut être beaucoup. Si le système vous le propose, faites-le, parce que ça complique encore plus le travail d'essayer de décrypter votre mot de passe. Dans la salle, là, qui a un mot de passe de moins de 6 caractères? À part chez les... Il y en a qui connaissent la réponse. Et oui, il existe. Vous avez un mot de passe, même deux mots de passe, qui contiennent moins de 6 caractères. Vous avez la carte bleue, mais vous avez aussi le code PIN pour vos téléphones. Et oui, il contient 4 caractères et 4 chiffres. Ah, il y en a qui dit non. Dans l'assistance, là, je l'ai juste là en face. Et pourquoi non? Sur la carte SIM. Non, mais sur la carte SIM, normalement, t'as le code PIN qui est 4 caractères. Pour ça, on peut demander à sa banque d'augmenter le code PIN de 4 à 8 caractères. Mais ça dépend des banques et surtout de leur bon vouloir. Alors, il y a malheureusement un corollaire à la loi de Moore. Pour la loi de Moore, c'est qu'en fait, tous les 10 ans, la puissance de calcul est augmentée. Et malheureusement, dans 10 ans, la règle qu'on vient d'édicter sera considérée comme faible. C'est-à-dire qu'il faudra encore augmenter le nombre de caractères, il faudra encore augmenter le nombre de types de caractères. Face à la loi de Moore, alors il y a des solutions. Ralentir par le calcul et la comparaison avec un H. En fait, le H, c'est un fichier, en fait, c'est une partie de votre mot de passe qui est déjà chiffré, et en fait, on compare ces deux éléments. C'est une sorte d'empreinte de votre mot de passe. Alors, on peut aussi, c'est justement une des solutions qui a été utilisée par la carte bleue ou par la carte SIM, c'est que on limite le nombre d'essais. Ben oui, vous avez droit qu'à 3 essais. La plupart du temps, voire un peu plus, ça évite que l'autre essaye toutes les combinaisons possibles et au bout d'un moment, c'est sûr, il va trouver votre mot de passe. Un élément très important, c'est justement de différencier les mots de passe par site. Alors, pour certains, ça paraît difficile parce que avoir un mot de passe par site, et on s'en souvient jamais de tous. Mais à ce moment-là, on peut. C'est vraiment important à ce que vous ayez un mot de passe différent. Pourquoi? Parce que si un des sites est hacké, ou au moins on lui a volé sa base de données, et que malheureusement les mots de passe sont déjà en clair, ils pourront tester sur les autres sites et voir si le mot de passe est possible, et donc accéder à beaucoup plus d'informations que juste leur première attaque. Le changer régulièrement, alors par contre là j'ai du mal à conseiller pour changer le mot de passe régulièrement,
Je dois dire, j'ai vu tout récemment, c'est la société Shell qui a fait faire des affiches, ils les ont fait mettre dans toutes leurs administrations, dans tous leurs bureaux. Cette affiche est superbe, vous avez un slip. Votre mot de passe, c'est un slip. Vous le changez régulièrement, vous le montrez pas à la vue de tout le monde, et vous le passez pas au tiers.
Alors, une autre solution qui a justement été mise en place par les banques, c'est la double authentification. C'est-à-dire, on fait une première authentification par juste le coût habituel adresse mail, mot de passe. Et ensuite, on va recevoir par SMS, par mail ou par d'autres solutions un deuxième code que l'on va utiliser pour vraiment s'authentifier. Du coup, par exemple, le cas de double authentification qu'on peut avoir, c'est justement sur un paiement sur Internet, on peut avoir on rentre nos identifiants de carte bleue et autres, et on va recevoir plus tard par SMS un nouveau code qui va confirmer notre achat. C'est mis de plus en plus sur les cartes bleues. J'ai d'autres exemples, et là ça va être un peu plus jeu vidéo. Il existe chez l'éditeur Blizzard, ils ont mis en place une double authentification avec une application sur smartphone. On se connecte une première fois sur leur jeu et on dit via notre smartphone si on se connecte ou pas. C'est comme ça, c'est d'autres méthodes de double authentification. Alors, il y a malheureusement de fausses bonnes solutions. Ben oui, là je vous ai donné des trucs, mais il y a malheureusement des sites qui ont une bonne idée, mais qui va finalement se révéler un peu mauvaise. Alors déjà, il y a une chose, c'est la biométrie. Eh oui, j'ai un iPhone, j'utilise Touch ID avec mon doigt. Ouais, c'est génial. Seulement, on peut me piquer mon téléphone et partir avec mon doigt et l'utiliser pour accéder au téléphone, au compte, au logiciel de banque que j'ai sur mon doigt. C'est génial. Et en ce moment, il y a des constructeurs qui proposent de le faire avec notre visage, avec nos yeux. Même problème. Rien n'empêche de prendre l'œil, quoi. Se connecter via Facebook, Google, Twitter, Microsoft, j'en passe des meilleurs. Vous trouvez très souvent ce genre de solution. Le problème, c'est que ça lie vraiment votre compte de site tiers à ces comptes-là. Donc, si le compte Facebook est compromis, ils ont accès à tout le reste. L'outil idéal, alors, il y a des gestionnaires de mots de passe, comme LastPass, il y en a toute une série. En fait, le principe, c'est on va avoir un logiciel maître, un mot de passe maître, qui va ensuite donner accès en fait ou générer des mots de passe pour différents sites. C'est une bonne méthode, mais le seul truc, c'est qu'il faut avoir une certaine confiance envers ce logiciel, parce que si, comme pour la connexion via Google ou via Facebook, si votre logiciel est compromis, le reste va l'être aussi. Donc après, c'est une certaine confiance à avoir avec ce genre de logiciel. Mais après, moi personnellement, le meilleur logiciel de gestion de mots de passe, il est là. KeePass, mais bon, c'est un logiciel libre qui justement est le pendant de LastPass. Oui. Alors, je vais répéter la question. Actuellement, donc c'est entre 8 et 12, donc 10 caractères. Est-ce que avec les ordinateurs quantiques, on va avoir plus de puissance? Ben justement, c'est en référence au corollaire de la loi de Moore. Tous les 18 mois, un point. Tu doubles la puissance de calcul tous les 18 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut ajouter, en plus de la, pour contrer justement cette loi de Moore, toutes les solutions que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire limiter le nombre d'essais, les mots de passe différents. Tu vas aussi avoir le changement. Tu vas changer, et surtout la double authentification qui est quand même, tu t'identifies, même si tu prends le premier truc, tu vas avoir sur toi ou à proximité quelque chose qui t'informe, qui te dit oui, quelqu'un a essayé d'accéder à tel site avec ton compte, est-ce que c'est toi? Tu réponds oui si c'est toi, si tu veux faire ta partie, ou non si c'est quelqu'un qui veut accéder à ton compte bancaire. Tous ces éléments-là sont là, non pas seulement pour ralentir, parce que le premier mot de passe arrête peut-être compromis, mais tu vas avoir une solution de repli qui va être justement de dire est-ce que c'est vraiment toi qui as lancé l'action. Alors, il pose la question de savoir si tous les sites faisaient de la double authentification pour justement lutter contre la loi de Moore. Le problème, c'est que tu as un volet qui est économique. La mise en place de la double authentification, ça nécessite l'envoi de SMS, même si c'est pas trop cher. Ça reste, tu as besoin de développer, tu as besoin d'envoyer le SMS. Si tu prends l'application Battle.net de chez Blizzard, c'est du développement à faire au niveau de l'application. C'est également du développement à faire au niveau de la transmission. Parce qu'il faut que tu sécurises quand même la chose, que l'autre ne t'envoie pas une notification pour l'autorisation, tu vois. Donc si tu veux, c'est vraiment le plus souvent quand un site ne met pas cette double authentification ou ne permet pas certaines choses, la carte bleue, ils pourraient augmenter. Ça fait des années. Et pourtant, eux, au niveau monnaie, ils ont mis en place la double authentification. Ils ont mis en place la double authentification, mais parce que ça a été forcé. Alors, est-ce que la loi oblige les gens à donner leur mot de passe lorsqu'ils sont mis à un examen ? Je me souviens que non. Il y avait eu une proposition de loi, mais ça n'a pas été passé.
C'est carrément dans la Constitution. Vous avez un droit à la non-incrimination. Donc, le fait que vous passez un mot de passe veut dire que vous auto-incriminez. Donc, même les lois qui sont passées récemment, comme quoi on a obligation de passer ces mots de passe. Non, il y avait aussi de mettre les mots de passe, ça a été censuré. Ça, c'est... Donc, non, il n'y a aucune obligation. Et de toute façon, vous avez le droit de garder le silence et vous dites, d'accord. Mais d'abord, je veux voir mon conseil, je veux voir mon avocat. Vous aurez la paix.
Je veux juste apporter un petit complément. En fait, ce qui est sorti de la proposition de loi qu'on a vue récemment, c'était effectivement, il y avait une idée dans le dernier projet de loi terrorisme d'obliger les gens que la police suspectait d'activités terroristes de fournir tous leurs identifiants sur tous les réseaux sociaux. Comme ça avait commencé à brancher, ils ont dit tout de suite non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas les mots de passe, uniquement les identifiants. Et vu que ça a vraiment continué à brancher, c'est-à-dire que des gens ont pris leur téléphone pour appeler les députés et leur dire ce truc est inacceptable, ça a sauté. Donc ça n'a jamais été voté. Par contre, il y a dans la loi française une obligation de fournir tout mot de passe qui permette de déchiffrer, d'accéder à des données dans le cadre d'une enquête judiciaire. Donc typiquement, si on chiffre son disque dur, il y a un cas actuel de quelqu'un, un jeune homme qui fournissait un service en ligne et à qui on a demandé de fournir la méthode, donc le mot de passe pour déchiffrer son disque, puisqu'il était illisible sinon, et on l'a accusé. De ce fait, il y a une sanction prévue dans la loi pour ça. Mais comme le dit Xavier, par ailleurs, la Constitution dit qu'on n'a pas le droit de s'incriminer. Enfin, on a le droit de ne pas s'incriminer. Donc il y a une contradiction. Et tant que le Conseil constitutionnel n'aura pas étudié cette loi pour dire si oui ou non elle est constitutionnelle, la loi est toujours là et on peut toujours être poursuivi pour ça.
De toute manière, comme le précise Xavier, c'est qu'au niveau européen, si ça part en décision, on est sûr que la Cour européenne invalidera complètement cette partie de la loi. D'autres questions ? Oui. Je vais répéter la question. C'était si on compromet notre boîte mail, est-ce que ça fera cascade sur les autres services ? Ça dépend. Parce que vous avez peut-être pas envoyé tous vos comptes sur la même boîte mail. Vous avez peut-être utilisé plusieurs boîtes mail, vous avez peut-être des comptes un peu partout. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la compromission d'une boîte mail c'est pas forcément en cascade. Ils ont cet identifiant-là. Ils ont accès à vos mails, mais est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer avec vérifier votre mot de passe ça dépend. Vas-y, Xavier.
C'est pas que vous. Le fait de contrôler votre email veut dire qu'on peut envoyer des emails à votre place. Ah oui. Mais surtout que l'on peut savoir à qui vous écrivez. Et moi, ça m'est arrivé tout récemment, il y a quelqu'un dans ma famille, son email a été compromis, et il a commencé à envoyer des emails à toute la famille en disant « J'ai un gros problème, je n'ai plus de téléphone, envoie-moi de l'argent au plus vite. » Donc le problème, il est là. C'est pas uniquement vous qu'on essaie de protéger, c'est aussi vos proches. Et c'est ça qui est important, en fait, dans la gestion de son identité. L'identité n'existe que par votre confiance, de même qu'une banque. On a confiance en elle que parce qu'elle a des gros coffres qui sont creusés, etc. Ce qui, objectivement, ne représente rien. Mais par contre, ce qui est extrêmement important, pourquoi il faut vraiment protéger ses adresses, son compte sur les réseaux sociaux et ses comptes e-mail, c'est pour ça. C'est qu'on peut faire le coup de la prisonnière espagnole à votre insu vis-à-vis d'autres personnes. Et vous aurez un mal fou à réparer ce problème-là. Parce que non seulement on vous dira « mais oui, mais c'est pas ma faute, je me suis fait pirater », est-ce que ces gens auront encore votre confiance après coup ? C'est ça qu'il faut réfléchir.
En plus, j'ai eu un cas dans ma famille, donc j'aurais pu y penser. Mais bon, un peu le stress. D'autres questions ? Ah non, non, justement. Ah non, justement, moi, dans mon cas, la phrase était parfaite. En bon français et tout. Même les gendarmes que j'ai contactés avec le membre de cette famille qui avait été victime de cette prisonnière espagnole, on a tous halluciné parce que elle était en français, orthographe, grammaire, était très bon. Et même connaissant la personne en question, c'était même surprenant. Donc.
Et l'autre exemple que l'on a vis-à-vis des entreprises qui se font le coup de l'attaque, ce qu'on appelle l'arnaque au PDG, le coup de fil de la personne impérative qui appelle une comptable d'un sous-service, etc. Des fois, ça marche très bien. On se dit, oui, c'est quelqu'un qui aura un accent, etc. Ce cliché raciste est faux. Et il faut bien se dire une chose, c'est que souvent, les gens qui nous arnaquent ne sont pas dans d'autres pays. Souvent, ils sont dans nos propres pays, ils ont la même culture que vous. Et ce qui est impressionnant, c'est que ils connaissent très bien comment fonctionne l'entreprise parce qu'ils ont lu ces informations sur des réseaux professionnels comme LinkedIn et tout ça, et ça marche quand même. Donc il faut se dire une chose, c'est qu'on n'est jamais assez prudent et on n'est jamais assez méfiant, malheureusement.
Alors, c'était par rapport au... Vous parliez des fautes d'orthographe dans les mails. En fait, je crois que c'est Microsoft qui avait fait une étude disant que, justement, il y avait des mails qui étaient faits exprès d'être plein de fautes parce que ça permettait de trier les gens qui, voyant ça, disaient « bon, c'est de l'arnaque ». Et donc de cibler plus spécifiquement les gens qui étaient susceptibles de répondre et de se faire avoir. Donc il y a des trucs qui sont écrits avec plein de fautes, c'est voulu.
Radio éphémère. Et c'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, avec des extraits de la crypto-partie du 28 octobre 2017 à la médiathèque José Cabanis.
Alors, moi, je vais vous parler d'hygiène numérique pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc, c'est le but, c'est de faire un truc vraiment pour les nuls, parce que moi, je suis vraiment nulle à la base. L'hygiène numérique, c'est quoi ? L'hygiène numérique, ce sont, alors c'est une définition de Genmac, qui est un blogueur qui est un peu habitué à en parler, et du coup, vous pouvez aller voir ses superbes supports où il parle beaucoup plus longuement d'hygiène numérique. Et donc, il explique que ce sont des règles destinées à mieux utiliser son ordinateur en sécurité de façon simple. Moi, je vais vous parler de ce que j'ai mis en place personnellement, donc des choses qui sont super simples à mettre en place, qui sont vraiment pour les pas doués, hein, que j'ai conseillé de faire à ma maman et voilà. Moi, le but personnellement, c'était deux choses, c'était d'être plus en sécurité, notamment par rapport à mes mots de passe. Alors du coup, je sais pas où vous vous situez. Visiblement, il y en a pas beaucoup qui ont des mots de passe de moins de 6 caractères, donc vous êtes pas trop bas. Mais moi, il y a quelques années, on va être gentil, j'avais un mot de passe identique pour tous mes comptes. Donc vraiment, vraiment, vraiment pas recommandé. Et là, j'accélère doucement pour être un peu plus attentive, mais pas parfaite. Bon, je chiffre pas encore plus vite que mon ombre, mais ça va venir. Donc moi, le but, c'était d'améliorer ma sécurité en n'ayant pas un mot de passe unique et aussi de ne pas donner mes données personnelles à n'importe quelle boîte. J'essayais notamment d'éviter Google, qui est une espèce de monstre tentaculaire qui a qui a Google Chrome, donc qui sait où vous naviguez, qui a le Google Agenda, donc qui sait ce que vous faites de vos journées, qui a votre Google Mail, donc du coup qui sait exactement ce que vous faites et qui vous voyez, donc c'est un peu pénible. Voilà. Donc ce que j'ai mis en place personnellement, ça marche. Alors, j'ai fait plusieurs choses. Sur mon ordinateur, simplement, j'ai mis un cache sur ma webcam, parce que les webcams peuvent être piratées, parce qu'on peut vous regarder. Et parce que, en vrai, ça fait une différence entre se dire que, bon, je peux être regardé, mais en fait, je m'en fiche, et avoir un cache et savoir que vraiment, de toute façon, personne ne peut vous regarder. Parce que moi, je disais que je m'en fichais, et j'ai trouvé un cache, mais on peut mettre un morceau de scotch qui s'enlève super facilement. Et je disais que je m'en fichais, et en fait, je vois vraiment la différence avec le fait de savoir que, y a vraiment plus de possibilité de me regarder. J'utilise des logiciels défenseurs de liberté. Donc personnellement, j'ai toujours utilisé Firefox plutôt que Google Chrome, parce que Firefox est un logiciel libre et qu'ils font attention aux données personnelles. J'utilise Quant plutôt que Google pour faire mes recherches. Quant, c'est un moteur de recherche et des fois, on est d'accord que Google est le meilleur. Google est le meilleur pour faire les recherches, on est habitué à chercher avec, etc. Mais des fois, je fais une recherche stupide d'une recette de gâteau ou peu importe, et Quant fait tout à fait bien l'affaire, et il n'y a que quand j'ai besoin de faire des recherches ultra pointues. Et même dans ces cas-là, je cherche avec Quant sur Google, parce que dans ces cas-là, Quant me permet de faire une recherche Google sans partager mes données. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y passer de toute façon. Et sinon, j'utilise des bloqueurs de publicité pour pas me faire traquer au fur et à mesure sur tous les sites. Et j'utilise Ghostery, qui est un petit plugin à installer et qui bloque les trackers lui aussi. Donc, des fois, c'est rigolo parce que vous allez sur les sites et le site ne fonctionne pas et vous désactivez le tracker. Et en fait, c'est à cause de ça que le site ne fonctionne pas. Donc, quand même, des fois, c'est un peu des enflures.
Il y a des grosses questions sur Ghostery où on s'est rendu compte qu'en fait, ils revendaient des données. Et donc, il y a plein de gens qui ont commencé à le désinstaller.
Il vaut mieux uBlock actuellement. Alors, je précise, donc du coup, que comme c'est pour les nuls, c'est vraiment que c'est pas parfait, qu'il y a plein de façons de faire mieux. Voilà, mais je pense que... Enfin, je pensais, du coup. Et quand on vous dit de recouper les données, que Ghostery, c'était mieux que rien. Qu'il valait mieux un truc qui bloquait tous les trackers, plutôt, et auquel potentiellement j'avais pas super confiance, plutôt que n'importe qui puisse récupérer mes données. Mais bon, voilà. Et on parlait de générateur de mots de passe tout à l'heure, Et voilà, donc moi j'utilise KeePassX, qui est un logiciel libre, donc c'est déjà ça. Donc ça me permet deux choses, ça me permet d'avoir quelque chose qui stocke tous mes mots de passe, donc c'est vachement bien parce que je me suis inscrite récemment à plein de sites administratifs, et donc entre tout, parce que j'avais un mot de passe unique, sauf que le mot de passe unique, des fois ils veulent des majuscules, des fois ils veulent des caractères spéciaux, des fois il faut plus de 8 caractères, des fois il faut entre 8 et 10 caractères, des fois il faut 12 caractères, c'est toujours n'importe quoi. Avec KeePass, je mets mes contraintes et KeePass me sort un mot de passe tout beau, tout neuf et tout unique dont il se souvient. Donc j'ai juste un mot de passe à me souvenir pour mon KeePass et ensuite il se souvient tout seul, donc c'est vachement pratique. Donc ça, c'était pour mon PC. Pour mon téléphone. Alors du coup, pour le mobile, j'ai toujours KeePass, parce que du coup, j'ai une application qui me permet de transférer mon dossier KeePass, donc je peux me connecter aussi avec mes mots de passe, parce que évidemment, quand c'est un mot de passe avec plein de caractères spéciaux, on n'a pas très envie de le retaper à chaque fois. J'utilise Firefox aussi sur mon téléphone, et notamment Firefox Focus, parce que en fait Firefox Focus permet de faire une recherche rapidement et sans partager les données, donc c'est pareil, plutôt que d'avoir la barre de recherche Google sur mon smartphone, j'utilise Firefox Focus, et c'est aussi pratique et c'est vachement mieux pour ma sécurité. Qui garde rien en stock, oui. Qui garde pas l'historique, donc c'est vachement bien. Et quand j'ai besoin de naviguer un peu plus, j'utilise Brave. Donc Brave, c'est un navigateur qui a des bloqueurs de publicité et des bloqueurs de tracking aussi. Donc du coup, et du coup, j'utilise aussi une application pour envoyer les messages qui chiffre avec les personnes qui ont la même application. Donc en gros, moi j'ai Silence. Il y a Signal qui existe aussi. Ce que fait Silence, c'est que si jamais j'envoie un SMS à ma sœur qui n'a pas l'application, ça envoie un SMS tout à fait classique. Et par contre, si j'envoie un SMS à une copine qui a l'application, genre à Nathalie, qui a l'application, du coup, ça chiffre automatiquement. On n'a rien besoin de faire, vraiment. Donc du coup, le logiciel fait une bidouille, il nous dit, on envoie les clés, oh, c'est bon, la conversation est chiffrée, il n'y a plus rien à faire. Et la conversation est chiffrée avec la personne, donc c'est simplissime. Pour mon parcours internet en général, je vérifie que les sites sur lesquels je fais mes achats, bon, le site de ma banque évidemment, les sites sur lesquels je fais mes achats est en HTTPS. Donc c'est dans la barre d'URL HTTPS, hein, y a rien de plus à regarder, il y a un cadenas vert, donc ça montre qu'au moins c'est un peu sécurisé. Récemment, c'est ma dernière victoire, j'essaye de partir de chez Gmail, et donc du coup j'ai créé des adresses mail. Moi, j'ai un site, donc du coup, j'ai pu créer mes propres adresses mail, mais on peut aussi créer des adresses mail chez d'autres services qui le proposent. Il y a ProntoMail qui apparemment est pas trop mal et qui propose de faire des choses bien. Donc, vous pouvez créer vos adresses mail pour qu'elles soient pas chez Gmail, parce qu'il y a pas longtemps, moi, par exemple, j'ai pris des billets d'avion et j'ai une copine qui m'a envoyé mes billets d'avion et instantanément, j'étais sur le calendrier de Google et Google a rajouté les dates de mon vol au moment où il a reçu le mail. Parce que du coup, Google a pris les données qui étaient sur le billet PDF dedans et a décidé qu'il fallait le rajouter sur le calendrier pour que je sois bien sûr de ne pas louper mon vol.
Ça va plus loin parce que moi j'ai reçu un devis de voyage auquel j'ai jamais répondu parce que c'était trop cher, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il était sur mon calendrier. Donc un devis, hein.
Voilà, donc je ne suis pas très copine avec Google comme vous aurez pu vous en douter. Et donc j'essaye d'utiliser aussi des services plus libre et plutôt libre et respectueux de mes données. Il y a les services Framasoft qui font des choses chouettes, notamment des Framadate et des Framapad. Donc Framasoft, c'est une association qui met des services en ligne. Et Framadate, ça permet de proposer un sondage à sa famille pour s'organiser, pour savoir qui c'est qui est dispo plutôt samedi et plutôt dimanche. Les Framapad, ça permet de faire des textes. Donc des fois, pour prendre des notes ou pour communiquer avec les copains, c'est vachement mieux que de devoir ouvrir un Google Doc, surtout que Google Doc, il faut une adresse Gmail souvent pour regarder. Donc, enfin, c'est un peu plus pénible. Les outils Framasoft, c'est chouette et les gens sont bien. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous avez des questions, je suis disponible. J'utilise pas Ubuntu. Alors, la question, c'est par rapport à Ubuntu. Moi, j'utilise pas Ubuntu parce que professionnellement, c'est pas possible. Et que pour l'instant, ça me fait encore un petit peu peur. Moi, je suis sous macOS et je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est mieux d'utiliser Ubuntu. Je pense que je vais m'y mettre, mais pour l'instant, je m'y suis pas mise. Donc, du coup, et je pense que c'est un pas assez conséquent à faire que j'ai pas encore fait. Donc, j'attends de m'y mettre pour pouvoir le conseiller. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres services que ProtonMail? Est-ce que vous avez des noms? Oui, ProtonMail est en Suisse, donc c'est la loi suisse. Donc c'est pareil aussi, c'est un autre service, donc il faut avoir confiance, donc c'est pas pratique. Et il y a Theta Neutral qui propose des choses, donc voilà. C'est pas facile les clients de messagerie sécurisés, parce que de toute façon, il faut avoir confiance dans la personne qui reçoit vos mails, parce que il faut avoir confiance pour ça, pour être sûr qu'ils regardent pas dedans. Donc voilà. Il y a aussi que, enfin par exemple, si jamais on veut juste partir de Google, il y a d'autres boîtes mail qui ne sont pas chiffrées, mais qui permettent au moins de ne pas être chez Google. Donc, c'est pas idéal. Après, ça dépend, parce que chez Google, au moins, c'est très sécurisé. ils récupèrent vos données, mais c'est moins facile à pirater potentiellement que moi, j'ai une boîte laposte.net. Je suis pas sûre que La Poste soit au niveau sécurité par rapport à Google. Donc ça dépend de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez. Oui. À quel point c'est dangereux d'avoir... Alors ça dépend ce que vous appelez dangereux. Au niveau confidentialité, il faut me faire des gros yeux si je dis des bêtises. Google fait son chiffre en revendant vos données. Au niveau de la confidentialité, c'est tout pourri, quoi. Je peux pas, parce que c'est comme ça qu'ils font leur chiffre, et du coup, leur but, c'est d'avoir le maximum de données pour les revendre, pour augmenter le chiffre. Parce qu'en fait, ce que fait Google, c'est qu'il a votre profil, et selon ce que vous faites, déjà, il sait, par exemple, si vous allez voir plutôt des vidéos d'équitation ou des vidéos de sport, par exemple. Mais ensuite, il voit aussi parmi les mails que vous recevez si vous êtes plutôt du genre à sortir le soir ou à rester chez vous, si vous faites beaucoup de... Si vous êtes du genre à lire tel ou tel type de littérature, parce qu'il sait potentiellement ce que vous achetez parce que vous recevez les mails de la FNAC. Et ensuite, il fait une grande fiche d'identité. Et ensuite, il revend ses fiches d'identité parce qu'il y a des publicitaires qui viennent et qui disent « Moi, je vends des produits d'équitation, donc du coup, j'ai besoin de viser que des gens qui vendent des produits d'équitation. » Et Google, il va lui dire « Oui, moi, j'ai des personnes, je suis sûre qu'elles font de l'équitation. Du coup, je vends tant parce que mon niveau de précision est élevé à ce point-là. » Donc, de toute façon, il y a tout qui peut être potentiellement récupéré. Alors, en fait, il y a un centre commercial un jour qui a appelé un papa et qui a félicité pour la grossesse de sa femme. Et donc, du coup... Le monsieur a écrit scandalisé en disant que c'était inadmissible, que sa femme était absolument pas enceinte, que c'était pas normal. Et en fait, plusieurs jours plus tard, sa fille s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle le savait pas elle-même. Et parce qu'en fait, d'après le profil que font les gens, le magasin s'est rendu compte que les personnes achètent tel type de choses et que, 6 mois après, ils achètent des couches. Et que du coup, on sait que les personnes 6 mois avant, quand elles achètent ce type de choses, elles sont là. Donc, c'est même que les personnes font de la prédiction grâce à vos données sur ce qui va vous arriver alors que vous ne le savez même pas. C'est assez flippant. Oui ? Alors, est-ce que Google devient propriétaire du texte et des photos que j'envoie ? Par mail. Non, parce que là, on tombe dans le droit d'auteur, donc du coup, c'est pas ça. Oui, on est dans l'échange privé, donc du coup, c'est pas ça. C'est pas pareil. Par contre, il jette un œil dessus. Et il en tire des conclusions. Donc, si jamais vous dites « Regarde cette super photo de moi en train de faire de la plongée », il saura que vous faites de la plongée, mais après, c'est pas pour ça qu'il prendra vos photos de plongée. Est-ce qu'il peut analyser les photos ? Je sais pas. Oui, il analyse les photos. Google est assez fort pour tout faire. Et assez flippant. Oui ? Est-ce que Gmail garantit qu'il y ait moins de virus ou pas ? Je pense que Gmail a des algorithmes assez costauds parce que du coup, comme il brasse beaucoup de données, il est assez pointu niveau sécurité, quitte à ce que du coup, il décide de façon plus ou moins objective de dire toi non, tu n'es pas safe, donc du coup, tu peux pas envoyer des messages, tu vas directement dans la boîte spam. Donc, je dirais que oui, ça n'engage que moi, mais je dirais plutôt oui quand même, parce qu'en fait, Google veut que vous restiez, donc il veut pas que vous preniez des virus sur sa boîte mail, sinon vous allez dire que Gmail c'est tout pourri. Donc du coup, il va faire en sorte de sécuriser au maximum pour que vous soyez sûr d'être confortable et que vous restiez. Oui. Alors, est-ce que un recruteur pourrait aller voir mon compte Facebook? Oui, un recruteur est allé voir le compte Facebook de la personne pour voir. Si le compte Facebook, vous avez des paramètres de confidentialité, donc c'est vous qui les réglez. Vous pouvez les régler de public, c'est-à-dire n'importe qui peut voir, à privé, c'est-à-dire il n'y a que vos amis. Donc si jamais le recruteur ne fait pas des magouilles pour réussir à être parmi vos amis pour des raisons, ça me semble très difficilement illégal. Parce que du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous publiez, notamment sur Facebook, c'est qu'on part du principe que c'est du domaine du privé. Et sauf que n'importe qui peut aller voir dessus et en tirer des conclusions, parce que les soirées de beuverie ou les soirées où on fait des têtes bizarres, ça arrive un peu à tout le monde. On peut supprimer ses propres photos, on peut pas supprimer les photos que les autres montrent de nous. Facebook a un algorithme de reconnaissance assez avancé pour qu'il sache dire que c'est vous qui êtes sur la photo. Donc c'est un peu c'est tentaculaire, c'est géant, c'est quand ça commence, après c'est super difficile de s'en sortir, parce que même si vous n'êtes pas sur Facebook, Facebook fait des profils vides Oui, il rassemble les données qu'il sait qu'il a sur vous, parce que ben, quand 5 amis ont un copain Thibaut qui n'est pas sur Facebook, Facebook sait qu'il y a, une personne qui s'appelle Thibaut qui peut y être. Donc voilà. Oui. C'est quoi Facebook? Ah mon Dieu, quelle superbe question troll. Facebook, c'est une grande entreprise qui a notamment son produit phare qui est un réseau social, mais qui a aussi des logiciels genre WhatsApp, c'est Facebook. Instagram aussi, c'est Facebook. Donc en gros, c'est quand on dit que c'est tentaculaire, c'est parce qu'il y a les données du réseau social, les données d'Instagram, les données de WhatsApp. Donc du coup, voilà, c'est une grande entreprise et qui vit aussi en revendant vos données, comme notre copain Google. Quelque chose qui est simple sur Facebook, c'est de mettre ni son vrai nom, ni son vrai prénom. Moi, j'y crois pas du tout, parce qu'on peut mettre un faux nom et un faux prénom, mais les données sont tellement faciles à recroiser que, à mon avis, c'est complètement bidon de croire qu'on peut être anonyme sur Facebook. Parce que, étant donné que même si on n'y est pas, il peut savoir qu'on existe. Donc du coup, à mon avis, c'est... Oui, il faut s'inventer une vie, et bon, là, après, on tombe un peu dans le truc un peu compliqué, quoi. Ok, bah merci beaucoup.
C'était quelques extraits de la crypto-partie du 28 octobre 2017 qui a eu lieu à la médiathèque José Cabanis. D'autres extraits seront diffusés prochainement et vous pouvez retrouver l'intégrale sur notre site cpu.pm. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Simon Prévident, Baskritch, Infoset, Grunt, MyOne, Solarus, Natouille et Glacaza. Ingénieur du son de l'événement, Fabrice Faubert, organisatrice à la médiathèque, Fleur Bouillane. La release a été shippée avec les moyens techniques de la médiathèque José Cabanis, de la bibliothèque municipale de Toulouse et de CPU. Merci aussi à tous nos amis qui nous ont aidés sur cette journée et qui sont parfois intervenus au micro. L'intégralité de l'enregistrement, les extraits, ces sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. La suite de cette crypto-partie sera diffusée prochainement aussi sur cette antenne. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.